gens sont très attachés à leur argent, c'est comme fondamental dans notre société. Et les gens ont vu ça et ça avait l'air facile. Ah, il y a une vidéo, ah, je suis capable de faire une meilleure vidéo que lui, probablement. Mais quoi qu'on avait une belle vidéo, mais l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de travail qui est derrière, et d'où ta question. Donc, la première étape que je dis à tout le monde qui me pose la question, « Hey, moi aussi, je suis intéressé à faire ça », c'est est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage qui ont un intérêt potentiel à investir dans ta compagnie? Et là, c'est important de mentionner, tu sais, la raison pour laquelle c'est un peu plus compliqué de faire ce type de campagne-là, puis qu'on n'en voit pas beaucoup, c'est que la réglementation.
Bienvenue au 21e épisode du podcast Hypercroissance, présenté et produit par J7 Media, une agence de publicité Facebook. Si vous cherchez un partenaire de croissance pour vous implanter dans de nouveaux marchés, J7 Media est le partenaire qu'il vous faut. En gérant près de 5 millions de dollars de publicité Facebook à l'année, J7 Media aide depuis 7 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez passer de croissance à hypercroissance, rendez-vous au www.j7media.com et demandez à parler avec un de nos conseillers. En l'espace de quelques jours seulement, notre équipe saura vous bâtir un plan de match afin de faire grandir votre entreprise. Aujourd'hui sur le podcast, on aborde un des sujets les plus intrigants que j'ai eu la chance de discuter dans les derniers temps. Au 10e épisode du podcast, j'avais eu la chance de m'entretenir avec François Robitaille qui nous avait expliqué comment il s'y était pris afin de lever 10 millions de dollars grâce au financement privé. Mon invité aujourd'hui, Julien Brault, président et cofondateur de l'application ArtBacon, nous explique lui, de son côté, comment il s'y est pris afin de lever plus de 1 million de dollars en financement participatif. Pour ceux qui se posent la question à savoir quelle est la différence entre le financement privé et le financement participatif, eh bien, je vous invite à écouter le podcast qui suit, car c'est l'un des sujets principaux qui sera discuté. Sans plus attendre, ma discussion avec Julien Brault. Julien Brault, tu es le président et cofondateur de l'application mobile ArtBacon, qui a pour mission de rendre simple et accessible l'investissement boursier pour monsieur et madame tout le monde. En août dernier, tu as été capable en seulement 60 jours de lever 775 000 $ en sociofinancement en utilisant la plateforme Front Funder. Auparavant, tu as été capable de lever 250 000 $ à l'été 2018. Tu as également été journaliste au journal Les Affaires en ayant une rubrique hebdomadaire se nommant de 0 à 1 million. Julien Brault, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Ça fait plaisir.
Julien, je te l'ai dit la première fois que je te parlais au téléphone, j'étais super fasciné et même intrigué à savoir comment qu'en 2019, on peut lever autant d'argent en sociofinancement. Précédemment sur le podcast, j'ai eu la chance de recevoir François Robitaille, CFO de l'entreprise Expertise, qui nous avait expliqué comment il s'y est pris pour lever des dizaines de millions de dollars avec des VC américains. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'entendre à savoir comment qu'on s'y prend pour lever plus d'un million de dollars en crowdfunding.
Ben, c'est une bonne question. Puis avant, j'aimerais faire la distinction entre deux choses qui se ressemblent énormément. Parce que tu as juste dit socio-investissement ou en anglais crowdfunding. Il y a différentes choses qu'on peut faire avec ce principe-là, le principe de faire un appel à la foule. Il y a le mode, tout le monde connaît Kickstarter, Indiegogo, tu sais, quelqu'un, Nouvelle Montre, super cool, il dit, ben, dans le fond, précommander la montre. Puis une fois que je vais avoir assez d'argent pour la faire produire en usine, je vous l'envoie, donc je vous donne un rabais parce que vous êtes early. Et là, on peut se financer en par des commandes. En fait, on se finance par des précommandes. Et il y a plein de compagnies qui ont été chercher beaucoup d'argent comme ça, là, même à Montréal. La chose que nous, on a fait, nos deux rondes que tu mentionnais, moi, j'appelle ça des rondes de financement, même si on pourrait techniquement dire que c'est aussi des campagne de crowdfunding, mais qu'est-ce qu'on vend? On vend pas un produit, on vend carrément, dans notre cas, là, on a vendu des actions dans notre entreprise durant ces campagnes-là. Et on appelle ça en anglais equity crowdfunding. En français, je pense qu'ils traduisent ça par socio-investissement, par capital. L'idée, c'est que les gens investissent dans l'entreprise. Puis l'exemple que je répète tout le temps, c'est que tu sais, il y a une compagnie qui s'appelle Oculus Rift qui a fait une super campagne Kickstarter. Les gens voulaient les lunettes de réalité virtuelle vraiment cool qu'ils faisaient et ont précommandé à coût de, je pense, c'est 500 $ la précommande. Ouais. Et la compagnie a levé quelques millions, je me souviens plus de combien sur Kickstarter. Et peut-être 6 mois après, avant même d'avoir livré les trucs, elle s'est vendue pour plus qu'un milliard à Facebook. Ben, les gens qui ont précommandé les lunettes, ben, qu'est-ce qu'ils ont eu? C'est des lunettes? C'était ça le deal. C'est correct. Moi, il y a des gens qui disaient, je suis fâché. Non, le contrat entre la compagnie et les gens, c'était, on va vous livrer des 100%. Lunettes. Les lunettes ont été livrées. Donc, les fondateurs se sont pas dilués. Et c'est super qu'est-ce qu'ils ont fait. L'idée, c'est que c'est complètement différent. C'est sûr que si on avait pu acheter des actions plutôt que des lunettes, on aurait fait un rendement incroyable. Mais tu vois, moi, je trouve pas ça... Si on a un produit à prévendre puis on est capable de se financer comme ça, c'est encore mieux que se financer par l'équité. On s'entend?
On s'entend.
Nous, on est une compagnie logicielle, donc ça n'a pas trop de sens.
Corrige-moi si je me trompe. Avant d'avoir fait ces deux rondes-là, tu avais vendu... un cours sur l'investissement, je pense à peu près peut-être 2 ans de ça, 2 ans, 2 ans et demi. Puis je pense que ça a été ta première ronde que tu as faite. C'est quoi? Tu as levé à peu près 5 000.
Ça, j'appelle pas ça une ronde, tu vois. J'appelle ça une campagne de socio-financement. C'était des précommandes sur un cours sur l'investissement qui s'appelait pas un autre cours plate sur l'investissement. Et on avait été chercher, je pense, 68 000 sur cette campagne-là, là, basée sur des précommandes de cours.
Intéressant. Puis parle-moi de ça. Fait qu'à partir de là, puis c'est un très bon point que tu as mentionné.
Les gens ont eu leur cours, mais les gens qui ont participé. Il y a des gens qui ont acheté notre cours à l'époque, puis qui sont devenus actionnaires de la compagnie.
Éventuellement.
Plus tard, mais c'est deux choses différentes.
Deux choses 100% différentes. Ouais. Puis revenons à ça. Donc, le cours a été fait, puis par la suite, tu as lancé ArtBacon. Parle-nous un petit peu de comment que ça fonctionne, la première ronde que tu as faite, qui je pense que c'est terminée à l'été 2018.
Ouais.
Je regardais mes notes, c'est 250 000 $ à peu près que tu avais levé. Comment que ça s'est passé, le déroulement? Comment tu as planifié ça, cette première ronde-là, puis par la suite, on ira à la deuxième également?
Ben, je pense, puis il y a plein de gens qui ont vu notre succès, puis se sont dit, puis c'est toujours dur de lever du financement. C'est dur de faire une campagne de socio-financement en capital, comme on l'a fait, puis d'avoir des centaines d'actionnaires. Mais c'est extrêmement dur aussi de faire une ronde d'ange, de faire une ronde... C'est toujours dur de lever du capital. Les gens sont très attachés à leur argent, c'est comme fondamental dans notre société. Et les gens ont vu ça, et ça avait l'air facile. Ah, il y a une vidéo, je suis capable de faire une meilleure vidéo que lui, probablement. Ben, quoi qu'on avait une belle vidéo, mais l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de travail qui est derrière, et d'où ta question. Donc, la première étape que je dis à tout le monde qui me pose la question, hey, moi aussi, je suis intéressé à faire ça, c'est est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage qui ont un intérêt potentiel à investir dans ta compagnie? Et là, c'est important de mentionner, tu sais, la raison pour laquelle c'est un peu plus compliqué de faire ce type de campagne-là, puis qu'on n'en voit pas beaucoup, c'est que la réglementation, on vend des actions. Techniquement, le cadre réglementaire pour vendre des actions, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois une compagnie publique, tu t'en vas en bourse, et ça passe par des courtiers, et c'est comme ça qu'on peut faire appel, ils appellent ça un appel à l'épargne publique en français, un IPO. L'idée du crowdfunding, c'est qu'aujourd'hui, il faut être tellement gros pour être en bourse, qu'on a décidé de trouver un autre moyen qui permet aux gens de lever de l'argent dans le grand public. Donc, tu sais, quand on parle des anges ou des dragons ou des investisseurs accrédités, c'est des gens qui ont une haute valeur nette en général, on va dire, mettons, plus qu'un million d'actifs ou, je pense, plus que 350 000 de revenus par année. Donc, ces gens-là sont considérés comme assez sophistiqués pour faire un placement risqué dans une société privée et c'est fair game d'aller les solliciter. Dans la mesure où on sait qu'ils sont accrédités ou qu'ils répondent à ces critères-là. Donc, c'est super important de savoir qu'il y a de l'intérêt, mais vous pouvez pas aller avant de bénéficier d'une exemption liée à une plateforme de crowdfunding enregistrée. Je ne peux pas aller demander à Jean-Jacques, investis dans ma compagnie et les solliciter. Vous allez vous faire taper sur les doigts. Je voulais juste le mentionner pour personne. Important. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est un sondage, mais on disait pas aux gens, hey, peux-tu investir dans notre compagnie? On disait, tu sais, c'est un sondage. Est-ce que tu aurais un intérêt si on faisait une ronde de financement, tu sais, où les gens pourraient participer en équité dans la compagnie? Mais on avait même pas le droit de dire quel titre financier, c'est quoi la valorisation. On pouvait rien dire. C'était pas une offre. Fallait pas non plus que ça mène à, tu sais, donne-moi ton argent.
Fait que juste pour être certain, là, pour qu'on soit capable de situer à travers le temps, si la ronde s'est terminée la première, à l'été 2018, ce sondage-là que tu as fait avec ta communauté, combien de mois à peu près avant?
Au moins 4 mois avant. Moi, j'estime que ça prend à peu près 3 mois à préparer une ronde de ce type-là. Donc, et l'idée, c'est ça, peut-être 4 mois avant, j'ai commencé à envoyer ça à des gens que je connaissais. C'est sûr, je demandais l'adresse courriel pour être capable de les recontacter. Mais le but fondamental, c'était pas de la sollicitation. On était vraiment dans un mode du sondage.
Dans un mode d'intérêt. Puis comment ça s'est passé? T'as-tu eu une réponse? Bien, on s'entend sûrement que oui, parce que les rondes ont été faites. Mais comment ça s'est déroulé? Les gens t'ont répondu, t'ont dit oui, on pourrait avoir un intérêt. Ouais. J'aimerais en savoir plus. Comment ça s'est déroulé?
Ben, effectivement, il y avait des gens qui me disent, ben, ça dépend de ta valorisation. C'est la bonne réponse à avoir. Mais moi, je leur disais, écoute, je peux pas te parler de ça. Ça va être vraiment sur la plateforme quand on va lancer ça. C'est pas un engagement. Fait que, tu sais, tu t'engages à rien répondre. Si t'es mal à l'aise, dis zéro, réponds pas à mon sondage. C'est correct.
On se comprend.
Et si tu penses qu'il y a peut-être un potentiel, ben, tu mets le montant que tu investirais si ça correspond à ce que tu penses.
OK, intéressant. Que,
ensuite, nous, on a observé qu'à peu près 50 % des gens qui avaient répondu à notre sondage ont investi le montant qu'ils disaient. Mais quand ils investissaient, ils investissaient exactement le même montant. Wow. Pas systématiquement, mais c'était très similaire. La personne qui disait 1000 investissait 1000 en général.
Puis je suis curieux, Julien, juste pour être certain, les gens que tu sollicitais, ouais. Tu leur posais des questions.
On les sollicitait pas, on les sondait.
On les sondait. Fait qu'on va dire les gens que tu sondais. Ouais. Est-ce que c'était des gens qui faisaient déjà partie de ta communauté, qui vous suivaient déjà? C'était des gens de ton réseau?
Oui.
Comment que ça fonctionne un peu?
Ben, premièrement, on avait une infolettre. Fait qu'on c'est dans notre infolettre, puis on l'envoyait. Là, ça fait un petit bout de temps, j'ai pas envoyé ce que j'étais un truc administratif à faire. Mais on l'incluait toujours dans l'infolettre. On fait ça. Sinon, tu sais, sur LinkedIn, du monde que je connaissais. Okay. C'était du monde.
La communauté.
C'était élargi. C'était pas que du monde que je connaissais personnellement, mais c'était des gens qui savaient c'était quoi Arbacon.
OK. Je comprends. Parfait. Donc, t'as l'information. Que ouais. Les gens vont te donner, ouais. Ils vont dire à peu près le montant approximatif ouais. Qu'ils vont donner. J'imagine que ça doit te donner de la confiance, là, de se dire, OK, crème, s'il y a autant de gens qui me répondent puis qui me disent qu'ils vont investir X, Y, Z de montant.
Oui, mais c'est, t'as toujours la crainte. Là, la première fois, j'avais aucune idée. Est-ce que c'est vrai, tu sais?
Ben oui, parce que les gens peuvent dire, oh, je vais investir ben oui, ça, mais ils pourraient le dire un million de fois.
La deuxième fois, j'avais, la théorie, c'était 50 %. Mais c'est une théorie, ça s'est révélé une fois, tu sais. Là, ça à peu près donner la même chose. Fait que, tu sais, là, c'est pour ceux qui nous écoutent, ils veulent le faire, ben, assumez que vous avez à peu près 50 %. Peut-être que ça va, ça dépend aussi de toujours comment faire répondre au sondage, tu sais.
Comment ta communauté est forte, puis c'est quoi la qualité de ton produit aussi, là, tu sais, on s'entend. Donc, on arrive, t'as des gens qui te répondent, qui vont dire, on va investir ou on va pas investir. Là, à partir de là, tu fais ta première campagne. Parle-nous un petit peu de ce lancement de campagne-là, les semaines avant au niveau de la planification, puis comment que ça s'est déroulé dans son ensemble.
Ben, comme toute, et ça s'applique autant, mettons, un Kickstarter, une campagne de précommande que de l'investissement. Les gens veulent, parce qu'il y a quand même une notion de prise de risque, même dans le produit. Le plus qu'on peut gagner, c'est le produit. Le plus qu'on peut perdre, c'est que le produit n'est pas livré. Dans le cas d'une action, ben si la compagnie fait faillite, on perd tout. Si la compagnie
on a du capital risque pur et dur.
Ben c'est ça. Personne veut être et ça s'applique même à une ronde de financement institutionnel avec des anges. Personne veut être le premier qui fait le chèque et c'est un problème quand tu fais une ronde institutionnelle parce que tu as besoin de quelqu'un qui fait le premier chèque. Personne veut être le premier qui a signé le chèque parce que on se dit ben là peut-être qu'il y a quelque chose que tout le monde a compris puis moi j'ai pas compris. Voilà. Et l'autre chose aussi, c'est que même les accrédités, ils savent qu'ils vont perdre beaucoup d'investissement. Ils veulent pas avoir l'air stupides, en fait. Ouais. Sont confort. Ils savent qu'ils prennent un gros risque. Fait qu'ils sont prêts à dire, OK, ça se peut que je perde mon argent, mais ils veulent pas être, hey, ben non, stupide. Tu sais, ce gars-là, il a fait, tu sais, tout le monde le savait que ça marcherait pas. Il a mis plein d'argent. Fait que tout le monde aime être accompagné. Fait que de manière pour désamorcer ça, parce que le problème qu'au début, c'est marqué zéro.
Ah oh oui, on s'entend. T'as besoin de mettre la crédibilité, puis faut que ben ça aille vite.
Fait que la première journée, il faut créer du buzz.
T'as pas le choix.
Et même la première journée, il faut réfléchir à qui t'envoie en premier sur ta page. Parce qu'il y en a une personne qui va être le premier. C'est juste.
Mais attends, juste pour être sûr, est-ce que ça serait pas préparé, mettons, avant de lancer, est-ce que tu le sais déjà, là, qu'à première journée, t'as Jack, t'as Joe, t'as si, t'as dit, garde, Julien, je suis là, je vais investir dès le départ pour essayer de mettre un peu de l'huile sur le feu. Sais-tu même si ça fonctionne ou tu le sais pas du tout?
Ben, moi, il faudrait faire ça. Ça serait la bonne méthode à faire. Moi, c'est une approche un peu différente où, je savais qui était. Mais j'ai pas eu de conversation au téléphone en disant comme OK tu me donnes ta parole.
Ouais. On se croise les doigts.
Mais ça serait honnêtement moi je recommanderais de faire ça, ça serait la meilleure manière, mais ce qu'on faisait c'est que j'écrivais aux gens que je connaissais le mieux, que j'avais l'impression que c'était pas mal du cash. Et là, puis l'autre chose aussi, c'est qu'on lançait la campagne, comme c'est pas comme Kickstarter, il y a plein de trafic. Donc, tu sais, on lançait la campagne, mettons, la veille du moment où on l'annonçait officiellement. Fait que là, je disais au monde, hey, tu sais, c'est ton temps d'investir. En plus, c'est capé. Fait que si tu veux investir, c'est le temps jamais. Et t'écris aux gens, justement, qui sont des convaincus, là, mettons, la veille. Et là, le matin, t'envoies un courrier, mettons, à toute ta communauté. Et là, il y a déjà un pourcentage où tu peux y aller par étape. Vague, tu sais, mettons les gens les plus convaincus, les gens qui sont pas mal convaincus, mais pas tant que ça, et de manière à ce que t'aies pas des gens qui bandent puis qui perdent confiance parce qu'ils voient qu'il y a pas assez d'argent. Puis le premier jour, à un moment donné, une fois que t'as été chercher, tu sais, les gens que t'étais pas mal sûr, ben là, tu pousses par toi en même temps. On parce que l'idée, c'est que.
Là, t'as un proof of concept. Hey, ça l'a déjà investi, là, c'est le temps, tu sais. Ouais. Puis, je suis curieux, les 7 premiers jours sont cruciaux, j'imagine.
C'est vraiment la première journée, c'est pire.
OK, c'est le premier 24 heures.
Comme c'est long, tu sais, l'écouter crowdfunding, est un peu plus compliqué que juste mettre sa carte de crédit comme Kickstarter. Donc, tu sais, souvent, ça s'étalait sur 3 jours, le buzz du premier jour, parce qu'il y a des gens qui étaient, ah, il manque telle information pour le formulaire, parce qu'il y a quand même eu de la friction. Mais ce qu'on a vu, là, c'est que, tu sais, première journée, c'était le plus. Après ça, deuxième journée, ça continue. Puis là, t'as le creux, là.
Ouais.
Ça fait que, tu sais, c'est vraiment les premiers, la première journée est cruciale, si ça se déroule bien. Et là, à un moment donné, ben, t'attends un creux parce que là, les gens, ils voient que ça ralentit. Ouais. Ça fait que là, t'as moins la peur que ce soit trop tard que tu puisses plus investir.
Fait que les gens investissent.
Puis il y a moins l'effet de nouveauté.
On se comprend.
Donc après ça, la job, c'est de trouver des raisons pour que les gens continuent à investir à tous les jours.
Puis on va en venir à ça. Donc là, si je comprends bien, puis corrige-moi si je me trompe, OK? T'as eu la chance, ou plutôt, t'as bâti ta chance, on va dire comme ça, t'as bâti ta communauté à travers le temps, une infolette active, des gens qui, t'as pas mal de connexions sur LinkedIn, il y a beaucoup de gens qui te suivent là-dessus. Ta communauté te connaît, ta communauté sait que tu vas avoir une ronde d'investissement participatif. Ouais. Ça se lance, la première journée est bonne. Moi, je voudrais que tu me dises, la durée habituellement, là, j'ai vu, si je me fais à mes notes, c'est 60 jours, ta dernière ronde, à peu près que ça a duré. La première, c'était combien?
En fait, c'est parce que la première, on utilisait une exemption de la loi différente des valeurs mobilières qui nous limitait à 250 000 maximum.
250 000. Fait que, sur combien de jours à peu près?
Fait que je pense qu'on a fait à peu près genre 47 jours.
47 jours.
Mais c'était une campagne de 60 jours.
60 jours aussi.
Mais le jour, je sais pas si c'était 47 exactement, mais il y a eu un jour qui était avant la fin de la ronde qui on a atteint le montant puis on n'avait plus le droit de prendre d'investissement.
Ouais. Fait qu'on va dire à peu près un 2 mois qu'il faudrait se planifier.
Légalement, c'est juste jusqu'à 3 mois.
C'est ça que j'avais dit, c'est maximum 90 jours.
Il y a une exemption dans la loi sur les valeurs mobilières qui dit, ben oui, tu as le droit de solliciter des non-accrédités essentiellement. Tu as le droit de prendre leur investissement. Quelqu'un pourrait l'accepter à 10 jours, c'était limité à 90 jours dans le cas de la première campagne. La deuxième, on utilisait ce qu'on appelle une notice d'offre. Et là, on aurait pu la faire pendant un an, mais ça n'a aucun sens.
Ça n'a aucun sens.
Parce que les gens investissent souvent parce qu'il y a un effet.
Il y a une date limite, scarcity.
Il y a une rareté. Puis en plus, un an, ben pourquoi tu n'attends pas à la fin de l'année pour voir les résultats de la compagnie si la valorisation ne change pas? Ça n'a juste aucun sens. Et aussi l'idée de... Ben, à un moment donné, on fait une ronde de financement parce qu'on a besoin d'argent.
Exact.
Fait que nous, on a choisi 60 jours parce que ça nous donne le temps quand même d'aller chercher de l'argent, mais c'est pas trop long. Puis en plus, le manque de focus pendant que tu fais ça, tu fais quasiment ça à temps plein.
Exact. Tu peux pas diriger l'entreprise comme tu l'as fait.
Une campagne Kickstarter, souvent, c'est 30 jours, la plupart. Mm-hmm. Même si eux autres aussi peuvent citer. Selon moi, une campagne de equity crowdfunding va prendre un peu plus de temps. Je dis pas que c'est impossible de faire en 30 jours, mais il faudrait vraiment avoir un gros sondage. Là, parce que
peut-être des confirmations que des investisseurs qui vont peut-être investir des montants beaucoup plus volumineux vont mettre leur argent.
C'est ça, parce qu'il y a un délai, c'est long à... Comme il y a plusieurs formulaires à remplir, puis plusieurs étapes, 30 jours, c'est extrêmement court.
C'est très short.
Surtout pour la deuxième ronde, on prenait des investissements dans des comptes CELI, comptes REER, juste les transferts de ça étaient interminables. Fait que ça aurait été impensable de faire 30 jours.
Je suis curieux. Tu as eu un premier, mettons, ta première ronde, puis on en viendra bientôt à ta deuxième. Ça commence fort.
Ouais.
Comment que par la suite, tu es capable de combler les creux? Parce que tu le dis, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, tu vas peut-être pas avoir autant d'argent qui va rentrer le 12e jour que le premier jour. Comment que Julien Brault travaille face à ces enjeux-là après 12, 13 jours que peut-être m'amener sur un petit peu plus creux?
Tu as tout à fait raison. Écoute, au début, tu fais comme, hey, avez-vous, t'as un article de blog, puis t'as ça. Fait que là, tu postes des trucs, mais à un moment donné, les gens en ont marre. Comme, oui, t'es motivé en tant que fondateur. Fait que là, tu postes 25 liens par jour. Mais la stratégie de poser 25, à un moment donné, il n'y a plus personne qui interagit.
Faut que t'aies une raison. Puis un contexte, là.
Effectivement. Donc, l'idée, c'est de raconter d'autres histoires. T'sais, dépendamment de c'est quoi la nature d'entreprise, si t'es capable de faire des releases de software, on en avait fait un dans l'autre round, ça, c'est génial.
Mm-hmm.
Tu montres que la compagnie va bien. Tu peux faire des entrevues avec des podcasts, par exemple. T'sais, tout ce que t'es capable de faire pour redevenir top of mind, parce qu'il y a toute une communauté de gens qui l'ont vu,
ben oui.
Sont intéressés, mais ils savent pas. Puis c'est les gens qui vont closer la dernière journée, là, qui étaient pas sûrs. Ben, le plus que t'es top of mind, le plus que t'as de chances de les convaincre de faire le dernier pas. Donc, et peut-être aussi, tu sais, faire une vidéo, mais tu fais le lien de la campagne, mais tu n'es pas en train de parler pendant 10 minutes de ta ronde d'investissement.
Non, tu amènes d'autres choses autour de ça. Puis je pense que tu avais été super bon. Tu faisais m'amener, je pense que tu le fais un peu moins présentement, mais quasiment une vidéo par jour sur LinkedIn où est-ce que tu abordais un sujet relié à l'investissement boursier. Et là, par la suite, par la bande, on est capable d'intégrer Heartbeacon. tu as un background assez fort au niveau média. Je veux dire, tu avais une rubrique dans le journal Les Affaires. Là,
j'étais formier. Journaliste à temps plein.
C'était ça ta job. Là,
ben, c'est ça. En fait, tu as mentionné au début ma chronique que j'avais, qui était quand j'étais rendu en affaires. Mais avant d'être fondé Art Bacon, j'ai été journaliste à temps plein.
Est-ce que ça t'a aidé?
J'étais pas juste chroniqueur, j'étais journaliste.
C'est ça, journaliste, c'était ça ton emploi. Puis est-ce que dans un contexte de lever autant d'argent, tu te rends compte que ça t'a aidé, peut-être même au niveau de ton réseau de contacts? Fait que parle-moi un petit peu de ça, comment tu as été capable de leverager ce background-là pour faire en sorte qu'Art Bacon lève encore plus vite.
C'est sûr que je pense que n'importe quel poste qu'on va avoir dans sa carrière, on peut décider de leverager ou pas.
On s'entend.
Moi, je l'ai leveragé. Tu sais, pendant que j'étais journaliste, c'est sûr, je créais beaucoup de contenu. C'était ma job, j'étais payé pour ça.
Exact.
Fait que tu sais, je distribuais, j'étais pas obligé. Je connais des journalistes qui s'en foutent, ils sont payés pour l'article, ils font l'article. Moi, c'est sûr que je le postais ces médias sociaux. J'ai déjà été spécialiste de médias sociaux aussi pour une compagnie. Fait que c'est quelque chose qui m'intéresse. Enfin, j'ai grandi. T'sais, le début de mon profil LinkedIn qui est rendu comme gigantesque, c'était plein de demandes par jour qui venaient à cause de mes articles. Ça donne un accès. J'ai parlé à des PDG, des investisseurs, parce que je couvrais le monde des technologies puis du capital de risque pour le journal des affaires. Donc, ça donne un réseau de contacts incroyable. Puis, j'ajoutais le monde sur LinkedIn après leur avoir parlé. C'était des sources, une bonne pratique. C'était pas... Oui, honnêtement, j'ai jamais pensé que je serais journaliste toute ma vie, mais quand j'ai le monde, c'est une bonne pratique, oui, pour bâtir mon brand, mais c'est utile aussi dans ma pratique de journalistique d'entretenir un réseau élargi.
Puis c'est ça, parce qu'au final, tu rentres dans une optique, toutes tes rentes, c'est du gros marketing, là, on s'entend. Oui. Là. Oui. Donc, toi, tu as été capable d'un background de créateur de contenu qui t'a aidé à savoir un petit peu quel type de contenu tu vas être capable d'échelonner pendant tout le long de ta ronde. Là. Oui. Donc, mettons, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui voudraient peut-être faire comme toi, je pense que ce serait peut-être intéressant de s'assurer pour ces gens-là qui ont ce qu'il faut au niveau de contenu pour travailler avant la ronde, pendant la ronde, faut la planifier là, tout ce contenu là-dessus. J'imagine que tu t'es pas juste levé un matin et dire aujourd'hui je fais une vidéo tout ça. Tu as dû avoir une bonne planification là.
Honnêtement,
pas tant que ça.
On avait planifié le jour 1 était planifié genre aux 4 minutes genre qui allait à l'autre toilette. Okay. Mais pratiquement parce que le premier jour super important puis on voulait frapper tous les canaux existants et possibles. Il y a des messages textes qui partaient. Mais le problème c'est qu'il y avait tellement de choses à faire puis sur le plan réglementaire, je vais pas rentrer là-dedans parce que le podcast va être plate, là. mais c'était très, très costaud sur le plan réglementaire. Fait que je passais beaucoup de temps juste à comme avoir le droit de lancer ma ronde. Fait que j'avais peu prévu de quel contenu on va faire jour 3, jour 4, jour 5. Fait que en fait, ça serait une bonne pratique pour les gens de te prévoir. Moi, c'était ça ma job pendant des années. Je rentrais au bureau puis
on va faire ça aujourd'hui. C'était instinctif. Là.
C'était pas mal intuitif, mais c'est super important d'avoir quelque chose à dire puis à raconter durant la ronde. Puis quelqu'un justement qui c'est pas sa grande force là, de le storytelling, mais ça aurait du sens de travailler à dire ah ben deuxième semaine on va parler de ça, puis on va avoir d'autres vidéos de prévues puis des choses comme ça.
Intéressant. Moi je voudrais savoir la différence au niveau de ton expérience puis au niveau de ton approche entre l'été 2018 puis l'été 2019. On s'entend, deux rondes que tu as faites en l'espace de quasiment 365 jours, en l'espace d'un an. C'est quoi les apprentissages que tu étais capable de faire de la première et que tu as appliqué sur la deuxième? Et c'est quoi les erreurs que tu referais plus?
C'est une bonne question. Ben, c'est sûr que le sondage, tu sais, j'ai fait exactement la même chose parce que ça avait bien marché.
Un copier-coller, OK.
Qu'est-ce que j'ai fait de différent? Ben, un, j'avais une meilleure équipe, mais c'était juste le fait que j'avais plus de financement que la première fois. Ben, une des choses que j'avais remarqué, c'est que quand je parlais aux investisseurs, parce que tu sais effectivement comme on l'a mentionné, comme il y a beaucoup d'investisseurs et dans un temps court, on fait du marketing pour intéresser les gens à la ronde de financement. On fait un deck qui a assez d'informations pour que quelqu'un prenne une décision.
On s'entend.
Et l'idée c'est qu'on parle pas à tout le monde. Mais un des trucs que j'avais remarqué dans la première ronde, c'est que aussitôt que j'avais parlé à quelqu'un, il y avait des chances que au téléphone ou en personne, les chances qu'il investisse étaient super élevées. Puis je m'estime pas en plus un très bon vendeur.
Mais t'es passionné. T'es passionné par ton produit, par ton entreprise.
Même au début dans la première ronde, je me disais ça serait mieux que j'évite de quand le monde disait ben je veux vraiment te parler, je prenais mon téléphone mais je poussais pas de rendez-vous téléphonique parce que tu sais pour moi c'était super important aussi de savoir que les gens comprenaient dans quoi ils s'embarquaient. Quand on investit dans une société privée, on sait pas quand on va pouvoir sortir. Les actions sont prises jusqu'à ce qu'il y ait ce qu'on appelle un exit, là, que la compagnie se fasse vendre en bourse. Fait que tu sais moi dans ces appels téléphoniques là, je m'assurais toujours, puis dans la documentation aussi, puis dans tout le matériel c'est clair, mais je m'assurais aussi de le faire au téléphone pour s'assurer que que j'ai les bonnes personnes patientes autour de moi. Fait que je me disais, tu sais, à quel point ça va être vendeur d'avoir une conversation avec le monde. Puis la réponse est oui. Fait que ce que je faisais, puis là, en plus, j'avais la chance d'avoir une assistante, c'est qu'on avait une stratégie où on faisait les rappels des gens qui avaient montré un intérêt, puis on leur proposait des rendez-vous téléphoniques avec moi. J'ai fait énormément de rendez-vous téléphoniques. Okay. Et j'étais pas en mode closing du genre, ben là, c'est le form où on va le faire ensemble à l'écran. Je faisais juste discuter. Hey, salut, j'allais voir le profil LinkedIn de la personne. Je disais, hey, qu'est-ce qui t'intéresse à l'investissement? On discutait. Il y en a qui me posaient, qui ont leur propre set de questions.
Un petit peu comme littéralement un PDG qui va faire son quarter, qui va aller dire à tous ses investisseurs ce qui se passe. Toi, j'imagine que les gens, tu leur disais, ben regarde, on était là l'année passée. On est là maintenant. Voici un petit peu nos plans. Puis si ça t'intéresse, on va de l'avant, on va pas de l'avant. Mmh. Mais c'était un peu ça, j'imagine, que tu faisais. T'expliquais la vision, puis t'expliquais un petit peu ce que vous avez été capable de faire historiquement dans la dernière année. Là.
Oui.
Question pour toi, tant qu'être là. Est-ce que ta deuxième ronde, il y a eu beaucoup des gens qui ont investi dans la première qui se sont également portés garants pour la deuxième?
Oui, il y en a beaucoup.
Pourcentage, mettons, vite comme
j'ai,
ça?
J'ai pas fait le calcul. Okay. C'est juste une manipulation Excel, essentiellement. Mais je l'ai pas fait.
Parce que je voyais au niveau de la valeur, je pense que la première, c'était 1,5 million que tu mettais à l'entreprise. Mm-hmm. La deuxième, 3,5 si je me trompe pas. Donc, tu sais, automatiquement, on s'entend, mais c'est intéressant pour la personne qui a investi l'année passée de se dire, bon, on va investir sur la deuxième ronde, d'autant plus que beaucoup plus de gens ont investi, beaucoup plus d'argent a été mis là-dedans. Ça doit être intéressant pour eux, là, si tu les avais au téléphone.
Oui, ben en fait, c'est à peu près la moitié.
Moitié.
Donc, c'est sûr qu'on parle, c'est pas des investisseurs accrédités. Un investisseur, tu sais, accrédité ou sophistiqué ou un fonds, là, tu sais, quelqu'un qui est vraiment professionnel, va investir avec, en se faisant des réserves et se dire, je sais déjà que la deuxième ronde va être ça et moi, j'ai des droits anti-dilution. Ils vont carrément mettre de côté des montants pour faire des follow-on. Monsieur, madame, tout le monde a pas forcément... tu sais, mais si, admettons, la personne a 1 500 $ dans la deuxième, est-ce que pour, tu sais, dans la deuxième ronde, elle a 2 000 $ à mettre? Il y en a que oui, là, c'est sûr. Mais il y a du monde qui m'ont dit, hey, je viens juste faire des rénovations sur ma maison.
Ouais, je comprends.
Puis, ben, moi, c'était correct, là. Moi, on faisait des suivis, tu sais, jusqu'à ce que tu me dises, ben, non, je veux pas investir dans ta ronde.
Je comprends.
Fait que là, c'est correct.
Je sais pas.
Je mon but, tu sais, je veux pas.
Mais ça va être excitant pour la personne à l'origine de se dire, crème, l'année passée, c'était 1,5. Là, maintenant, il met une ronde à 3,5, qui on s'entend, t'aurais peut-être pu mettre ça à une valeur de 3,5 puis personne n'investit, mais là, de la personne qui voit que Crème a le plus que doublé la valeur que Julien Brault a mis à l'entreprise un an après, puis qu'il y a autant de gens qui investissent encore. Moi, en tout cas, si j'avais été un investisseur à l'origine, je ne l'étais pas, ça m'aurait excité de dire, OK, ouais, il y a autant de gens qui sont excités à une valeur deux fois plus élevée que l'année passée, c'est peut-être le temps de remettre un petit peu plus.
Ouais, mais je pense que c'est pas le meilleur raisonnement. Puis tu sais, en bourse, on devrait pas trop regarder le prix de l'action. Mm-hmm. Mais en plus, c'est liquide. La bourse, le marché est peut-être complètement fou, puis l'action n'aurait pas dû doubler. Mais au moins, ce que tu peux faire à ce moment-là, si tu trouves que c'est fou, tu peux revendre. Dans notre cas, les gens sont encore, tu sais, ils peuvent pas liquidifier leur investissement. Donc, selon moi, en tout cas, moi, c'est pas les arguments que je mettais de l'avant. Il y a peut-être des gens qui ont eu cette réflexion-là. Moi, c'était plus, ben regarde, qu'est-ce qu'on a réalisé au cours de la dernière année. C'est ça.
OK. Je suis curieux de te mentionner un petit peu les montants que les gens pouvaient investir. Est-ce que tu peux nous expliquer, parmi tous les gens qui ont investi dans Hardbacon en moyenne, est-ce que c'est des gros investisseurs qui sont arrivés, qui ont mis des centaines de milliers de dollars, qui ont fait en sorte que tu as été capable d'avoir ta ronde qui, bon, c'est ça, on le dit un peu avant le début du podcast, au-dessus d'un million en financement, ou finalement, c'est un paquet d'investisseurs qui ont investi des petits montants qui ont été capables de donner le 779 000, je crois, que tu as eu sur ta dernière ronde?
Je pense que la moyenne, l'investissement moyen était... un petit peu moins que 1 000 $, là, peut-être 900 quelque chose.
OK.
Donc,
fait que c'est du volume, là.
Il y a beaucoup de volume. Il y a eu, en fait, nous, on avait même mis un investissement minimum, tu sais, qui était ridiculement bas à 99 $. Effectivement, je pense que 100 $ à cause du prix de l'action. Et il y en a beaucoup qui l'ont fait, en fait. Derrière la plateforme FrontFunder, mais pas ça, parce que moi, j'aurais dit, écoutez, inquiétez-vous pas. Dans ma première ronde, il n'y en a pas eu beaucoup. Là, il y en a eu plein dans la deuxième. Donc, tu sais, t'as les gens qui, et ces gens-là, je pense qu'ils s'achètent un ticket, t'sais, pour voir, parce que 100 $, on s'entend que c'est pas matériel, ce serait étrange que quelqu'un dans un compte de courtage achète une action de Adobe, ou t'sais. Donc ça leur donne accès à nos états financiers, t'sais, c'est des gens qui croient dans le produit, fait que t'sais, on est quasiment plus dans la logique Kickstarter, même si c'est des vraies actions qu'ils achètent, puis avec ce que ça vient avec. Et à l'autre opposé, on a eu quand même plusieurs personnes qui ont mis des 10 000 $ qui devient quand même un peu plus substantiel. Je pense que notre plus gros investissement était d'à peu près 30 000 $.
Mais c'est pas tant que, c'est ça qui est impressionnant, c'est que c'est pas tant que ça. Tu sais, peut-être avant d'avoir la discussion avec toi aujourd'hui, j'aurais pensé peut-être que t'as deux, trois investisseurs qui se sont dit, on met 75, 100 000, puis après le reste, on va dire, assumons, mettons, 300 000 a été sécurisé avec des plus gros investisseurs, le 400 000 restant est avec monsieur, madame, tout le monde. Mais là, t'es en train de me dire que la majorité vient littéralement de monsieur, madame, tout le monde, si le plus gros investisseur est 34 000. Là.
Oui.
C'est assez...
Oui, c'est pas la plupart de... Il y a quelques investisseurs là, tu sais, qui ont mis des montants, mais comme je te dis, qui étaient en bas de 30 000, qui étaient des anges puis des gens qui investissent dans des startups. Mais la plupart des gens, on est probablement le seul investissement dans une société privée. Là, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui investissent en bourse. On entend beaucoup d'utilisateurs qui utilisent Hardbacon pour suivre leurs placements.
On s'entend.
Il y a eu beaucoup de professionnels d'investissement, tu sais, qui voient comment leur industrie est en train d'être transformée puis qui voient qu'Hardbacon a bien placé ses cartes dans ce milieu-là. Fait que c'est du monde qui ont quand même du cash à leur disposition. Mais la plupart de ces gens-là n'étaient pas des gens qui étaient déjà dans plusieurs startups. Là.
OK, intéressant. Julien, le plus gros avantage selon toi de faire une ronde, on va dire l'investissement participatif de monsieur, madame, tout le monde, comparativement à faire le même type de ronde, mais avec du venture capitalist, donc des investisseurs, des anges, comme tu dis. C'est quoi le plus gros avantage selon toi?
Il y a des désavantages,
C'est ça.
On va parler des avantages. Ouais. Je dirais que c'est énormément d'efforts de faire ça, mais c'est énormément d'efforts de faire la ronde traditionnelle et les efforts résultent en du marketing. Contrairement la ronde qui se porte dans des boardrooms, tu travailles comme un chien pendant 4-5 mois et à la fin, tu as un montant d'argent, mais il n'y a personne de plus qui connaît ta compagnie.
Ouais.
Donc ça, c'est extrêmement public et c'est du marketing. Et on implique aussi les investisseurs, mettons les gens qui ont investi dans les trois premiers jours. Ben là, après ça, je leur envoie du contenu. Je dis, hey, pouvez-vous partager ça? Fait que tu sais, il y a vraiment un phénomène viral
de
se faire connaître.
Spécial, ça.
Ça, c'est un avantage. Le deuxième, c'est que tu as accès à un pool incroyable de gens de différents backgrounds qui ont un intérêt à ce que tu réussisses pour des introductions. Tu sais, on a des gens qui travaillent dans toutes les institutions financières. C'est comme, hey, tu connais-tu telle personne?
Fait que, tu sais, ton réseau de contact doit grossir.
C'est un réseau de contact incroyable. Puis, tu sais, souvent, l'argument, mettons, d'un ange investisseur va dire, ah, ben là, tu sais, moi, j'aide tellement mes compagnies puis j'ai des contacts. Oui. Mais il y a deux différences, c'est que un, moi, j'ai accès, plutôt qu'une ronde où j'ai accès à 10 anges et leurs contacts, là, j'ai accès à comme plus ou moins 1000 personnes et leurs contacts. Et un ange, en général, qui est professionnel, va faire plusieurs investissements par année, donc doit diviser son temps qu'il alloue à des introductions entre plusieurs compagnies. Moi, souvent, je suis la seule compagnie privée. Donc ça, c'est un super avantage. C'est sûr qu'avoir un multimillionnaire qui a mis t'sais, un montant d'argent important, ben là, c'est sûr que...
Qui a un share important.
Il y a peut-être des accès qui donnent accès parce que il veut vraiment que ça fonctionne. S'il avait mis juste 1000 piastres dans ta compagnie, il ferait comme, ben là, je vais pas essayer d'utiliser tout mon poids pour t'obtenir un rendez-vous avec le PDG de la Banque Royale, par exemple.
Ouais.
Fait qu'il y a ça. L'autre enjeu, c'est que ça devient... les relations aux investisseurs est un peu plus compliqué quand il y a 1000 personnes plutôt que 10.
Peut-être plus de service à clientèle. Mais entre parenthèses,
c'est pas de la clientèle. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'expliquer aux gens...
Le service aux investisseurs.
La réalité, hey, on est une société privée. On va vous donner accès à nos états financiers une fois par année, puis on va faire des mises à jour, mais on peut pas discuter de chaque décision individuellement avec les gens. C'est juste impossible.
On
a un groupe Facebook où les gens peuvent avoir des discussions. Moi, quand je vois des discussions, j'interviens, mais je peux pas passer énormément de mon temps parce que le mandat que j'ai, c'est de bâtir la compagnie pour qu'il y ait un rendement et non de passer mon temps avec des gens qui posent plein de questions.
Ouais.
Mais à date, ça va bien, pour être honnête.
À date, ça se passe. Ouais. Je suis curieux.
Mais c'est une peur. c'est nouveau, tu sais.
C'est sûr, parce que là, à un moment donné, les gens ont mis de l'argent, puis ils ont une relation quasiment directe avec toi. Tu disais tantôt, tu étais au téléphone avec eux avant que la ronde. Donc, ils vont peut-être penser qu'ils ont tout le temps ça, mais à un moment donné, il faut que tu mettes les choses au clair là, de c'est quoi ton job là-dedans.
Ouais.
Question pour toi, Julien. Est-ce que tu penses que d'avoir fait deux rondes comme ça, en incluant un petit peu la société, on va dire ça de même, te donne peut-être des arguments nécessaires pour faire une troisième ronde et cette fois-ci, peut-être la faire uniquement avec des investisseurs privés, parce que là, t'es capable de leur dire, regarde, j'ai été capable de le faire, j'ai été capable de créer un buzz autour de ce que je fais. Est-ce que tu penses que ces arguments-là peuvent t'aider pour une troisième ronde, pour aller chercher peut-être de l'investissement d'une manière différente, cette fois-ci, avec une ronde traditionnelle?
C'est une bonne question, puis c'est sûr que, tu sais, nous, on a fait des projections financières de manière à ce qu'on puisse devenir cash flow positif avec l'argent qu'on a.
Okay.
Mais la réalité, c'est qu'on est très ambitieux, puis quand tu dis on va être cash flow positif, ça veut dire que tu t'atteins une certaine taille, t'as pas une croissance, pas doublée chaque année, sans financement extérieur. Donc, nous, notre but, c'est d'être le plus indépendant possible. Mais oui, ça fait partie de nos ambitions de continuer à progresser. Et je pense pas qu'on serait prêt. Le moment où on serait prêt à aller chercher des capitaux pour accélérer la croissance correspond probablement pas au moment où on serait prêt à aller en bourse. Donc, tout ça pour dire que tu as raison. On songe à faire une ronde éventuellement qui aurait lieu dans 12 à 18 mois. Et à ce moment-là, c'est sûr que ça serait difficile, mettons, qu'on dit qu'on va aller chercher 5 millions ou 10 millions de le faire avec seulement avec du equity crowdfunding. Il n'y a aucune décision qui a été prise, c'est-à-dire on pourrait juste faire une ronde institutionnelle qui impliquerait pas les investisseurs du crowd, ou on pourrait faire un truc hybride où on y a une bonne partie ou la majorité de l'argent qui vient d'investisseurs privés qui mettent des gros montants, et on pourrait ouvrir aussi le capital à une ronde où les gens pourraient continuer à participer. Moi, je trouve que ça serait le fun. Tout est une question de temps. Mm-hmm. Fait que, je trouve que ça va bien avec notre mission qui est démocratiser l'accès à l'investissement, de rester ouvert comme ça, oui. Puis un jour d'être public ou d'être en bourse. Mais ensuite, ça nous prend deux fois plus de temps puis de ressources. Puis dans le fond, on va juste chercher 10 % de plus d'argent de cette manière-là, ou que nos investisseurs privés sont comme, regarde, on peut fournir tout le capital que tu as besoin. Est-ce qu'on va le faire? J'ai aucune idée. Ça va dépendre de là où on est rendu à ce moment-là.
Puis parlons-en de ça. C'est quoi les objectifs pour les 12 prochains mois avec HardBacon? Est-ce qu'il y a des objectifs de monétisation très rapide? Parle-moi un petit peu, c'est quoi ton rôle? C'est quoi l'objectif de HardBacon pour les 12 prochains mois?
Très bonne question. Là, je suis plus en mode vente.
Puis quand tu parles vente, juste pour, excuse-moi, ouais. Pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, ouais. T'as bougé, toi, beaucoup d'un modèle B2C à B2B, je pense, ouais. À peu près dans la dernière année. Ouais. Donc, tu travailles davantage avec les grosses banques. Parlons un petit peu de ce volet de monétisation-là. Ça veut dire quoi vendre pour HardBacon en 2019, là?
Ben c'est ça. Les gens peuvent toujours venir s'abonner à notre application mobile puis le download dans l'App Store, qui fait 99 par année. Mais la plupart de nos revenus viennent des partenaires B2B ou des clients B2B où on fait des campagnes avec eux et on licence notre application à leurs clients. Et on va chercher essentiellement, ces campagnes-là nous permettent d'engager leurs clients et d'aller chercher des nouveaux clients pour ces partenaires-là. Donc, moi, je passe beaucoup de temps à Toronto à rencontrer les gens dans l'industrie de l'investissement, là, donc des courtiers en ligne, robots conseillers, firmes de services financiers pour avoir des partenariats ou des deals de ce type-là.
T'as un pouvoir de distribution qui est bien plus élevé avec les banques que si tu le fais tout seul.
Effectivement. Et l'autre business qu'on développe aussi, c'est une business directement avec des conseillers financiers. Okay. Qu'on peut signer en haut, mais c'est des cycles de vente qui sont très, très longs. Ou il y a aussi plein de conseillers financiers indépendants avec qui on a commencé à travailler. Donc, ça nous permet de réduire le cycle de vente. Je dirais, mon rôle cette année, c'est augmenter les revenus. Produits, on vient d'engager un directeur produit qui me permet justement de passer tout mon temps sur le développement des affaires. Côté produit aussi, on améliore toujours le produit. Présentement, on se connecte juste aux comptes d'investissement, on ajoute les comptes de banque, on ajoute d'autres fonctionnalités là, qui permettent de faire plus avec l'application.
Intéressant. Puis je suis curieux, mettons, si tu me fais un pourcentage, entre le temps que tu vas investir au niveau du développement des affaires pour les courtiers VS, on va dire les grosses banques, les grosses institutions, ça ressemble à quoi à peu près?
Tu veux dire conseiller financier versus institutionnel?
Oui, exactement.
Je te dirais présentement, ça va changer en fait. Présentement, je te dirais c'est plus 60-70% les gros deals.
OK.
On a un premier vendeur qui va se pencher sur ce marché-là. Tu sais, j'ai passé, avant que tu arrives, je faisais du cold call avec notre directeur produit pour ce qu'on est en train d'établir le processus de vente.
Okay.
Puis là, on a quelqu'un qui arrive à temps plein, fait qu'on n'aura pas, j'aurais pas le choix de m'en occuper beaucoup pour s'assurer que c'est rentable et que ça se développe de la bonne manière.
Puis juste pour être certain de bien comprendre, donc disons, mettons, tu prends un deal avec la banque, tu prends un deal avec le conseiller. Comment que eux peuvent utiliser l'application avec leur base de clientèle? C'est quoi un petit peu les avantages concurrentiels que tu vas leur donner comparativement à quelqu'un qui va télécharger directement l'application?
C'est une bonne question. Pour l'instant, tu sais, mettons les deals qu'on a en place, là, c'est plus avec les courtiers en ligne. Fait que eux, ils veulent juste faire en sorte que leurs clients soient engagés par rapport à leur compte et éventuellement, tu sais, entretiennent leur portefeuille, donc place plus de transactions sur leur modèle à faire les courtiers en ligne. Le modèle où on s'en va avec les conseillers, présentement, on fait juste du référencement client pour les conseillers, pour être honnête. Mais on est en train de développer une plateforme où les conseillers vont déployer des applications à leurs clients, HardBacon. Le client en bénéficie parce qu'il comprend mieux où son argent est, et ainsi de suite. Et nous, on prend les données puis on le met dans le dashboard du conseiller, donc il va pouvoir mieux le servir. Puis juste mentionner ici, là, comme il y a personne qui est client, mettons, chez HardBacon, qu'on va prendre ces données puis le donner à quelqu'un sans qu'il sache. ça va être vraiment de manière volontaire. C'est comme, hey, voici, je te donne une application, puis la personne est obligée d'accepter de partager ses données avec son conseiller et son conseiller seulement. Et si la personne veut pas partager, ben, elle partage pas. Mais le modèle, c'est que comme ton conseiller, c'est comme une condition qu'il aurait à te donner l'application. Peut-être que lui-même, tu sais, dit, ben, t'es pas obligé, mais là, il serait pas obligé. Mais l'important, c'est que il y a personne qui est client chez nous qu'on va partager leurs données là, avec un conseiller ou une institution financière sans leur consentement.
OK, intéressant. Fait qu'en gros, ça devient une bonne valeur ajoutée pour le conseiller de pouvoir dire à son client, regarde, c'est beaucoup plus simple maintenant de suivre un petit peu tout ce qui se passe. Ben, c'est comme ça que tu vas dealer avec eux.
Non seulement pour le client, c'est plus simple puis ça permet d'agréger ses comptes, mais là, pour le conseiller, lui, il gère juste une partie du wealth en général de l'actif.
Ben oui,
de son client. Puis il voit d'autres actifs, il voit même les rendements des autres actifs. Il peut dire, ah ben, tu sais, lui, à la fin de la journée, c'est sûr qu'il va dire, ah ben, voici comment je placerais mieux ton argent, il va essayer de récupérer. Mais je veux dire, en même temps, il ne veut pas perdre la relation. Fait que si le client a des bonnes raisons d'être là, il va dire, OK, je comprends ça, il va respecter ça. Mais c'est les opportunités de développement d'affaires là, pour le conseiller.
Intéressant, très intéressant. Petite question perso, Julien. Oui. Es-tu un grand lecteur? Lis-tu un peu des livres de business?
J'en lis pas quand même assez, mais je lisais beaucoup plus quand j'étais journaliste de livres que j'ai le temps de lire. Comme je lis pas assez, là, j'ai pris une semaine de vacances récemment, puis j'ai lu 3-4 livres de business. Mais
ton meilleur livre. Mettons, parle-moi d'un livre là, qui a vraiment marqué, puis davantage, peut-être même on pourrait parler d'un livre d'investissement. Ce serait quoi que tu conseillerais?
Un livre d'investissement. Écoute, moi, je te dirais mon préféré, puis c'est le plus. Ils sont souvent plates, les livres d'investissement. Ils sont souvent, tu sais, il y a une différence entre un bon livre puis un livre avec du bon contenu. Là.
Ouais,
en investissement en général, comme il y a des livres avec du bon contenu qui sont vraiment plates. Le meilleur pour le lire puis qui a du bon contenu en même temps, c'est la biographie de Warren Buffett, ça s'appelle Snowball.
Ouais.
De, je pense, que c'est Alice Schroeder. C'est une grosse brique de genre 1200 pages sur la vie de Warren Buffett. Ouais. Mais Alice Schroeder, c'est une analyste financière, je pense, qui couvrait Berkshire Hathaway. Elle connaît très, très bien le domaine de l'investissement et elle prend le temps sans que ça paraisse, sans avoir comme un passage de 25 pages sur comme analyser une compagnie, mais pour expliquer Warren Buffett que la seule chose qu'il fait dans sa vie, c'est si tu écris 1200 pages sur Warren Buffett, tu parles d'investissement. Fait qu'en fait, elle a réussi à expliquer à monsieur, madame, tout le monde. Tu n'as pas besoin d'aucune base en finance pour comprendre le livre. À peu près toutes les stratégies que Warren Buffett a employées. Fait que selon moi, c'est comme vraiment, si vous n'aimez pas les livres de finance, vous lisez la biographie de quelqu'un, puis après, vous avez comme des bonnes bases en investissement.
Intéressant.
Mais c'est pas un livre de... Moi, je pense que oui, ça doit être un livre de business.
Ben oui, un certain point. À la fin de la journée, tant que tu es capable de retirer d'un bon livre une ou deux bonnes nuggets là, que tu es capable d'appliquer dans ton day-to-day, actuellement, tu t'en sors bien. Podcast? En écoutes-tu un peu?
J'écoute plus de podcasts maintenant parce que je manque de temps. Fait que oui, j'en écoute plein. Mon préféré, c'est How I Build This.
Okay.
C'est des histoires d'entrepreneurs incroyables. Puis, tu sais, tous les grands PDG, genre aux États-Unis, ont quasiment été interviewés sur How I Build This. Là.
Ouais.
Sinon, il y en a un que j'aime beaucoup, Planet Money. Donc, ça parle plus d'économie. Mm-hmm. Il y en a un qui est peut-être un peu moins populaire. C'est vraiment des classiques que j'ai dit, genre, qui sont recommandés dans le top de Apple Store. C'est Business Wars. C'est des histoires, genre McDonald's contre Burger King, puis Pepsi contre Coke. Puis c'est vraiment, il y a de la narration, il y a même de la mise en situation où tu sais, ils font des voix là, pour faire de la recréation de scène. Et on apprend énormément sur l'histoire des affaires aux États-Unis puis dans l'Ouest. Puis on apprend sur des business cases, puis c'est le fun. Fait que ça, je te dirais que c'est peut-être mes trois préférés.
Intéressant.
Mais j'en écoute d'autres. Là.
Masters in Business, connais-tu?
Non.
OK. Peut-être que tu vas trouver ça intéressant.
J'écoute celui de Tim Ferriss aussi, qui est quand même pas pire, mais il est trop long.
Des fois, il faut que ça soit short and sweet. Tu sois capable de le consommer puis de passer à autre chose après. Intéressant. Moi, je suis curieux. Tu as une application pour l'investissement. On a parlé de ronde de financement aujourd'hui d'investissement. À la bourse présentement, y a-tu des verticales, des industries spécifiques que tu regardes davantage pour investir ton capital que d'autres? Y a-tu des trucs hot un peu que tu pourrais nous parler, que tu regardes de près présentement?
C'est un peu comme le cordonnier mal chaussé, mais comme j'ai quasiment pas eu de revenus dans les deux, trois dernières années.
T'as tout réinvesti pour la business.
J'ai plus d'argent en bourse. J'en avais avant, j'en ai plus. Et je suis tellement occupé que... Tu sais, oui, je m'informe sur qu'est-ce qui se passe, mais je suis moins... En fait, ça serait le fun que si j'avais plus d'argent, comme j'aurais peut-être plus l'intérêt de passer encore plus de temps pour trouver des niches intéressantes. Fait que je parlerais à travers mon chapeau comme...
Tu comprends.
Je trouve les valorisations sont relativement élevées et j'ai pas la réponse. Là. Je veux pas envoyer les gens dans la mauvaise direction. Je suis pas assez proche.
Réponse honnête. Réponse honnête. Julien, très intéressant. Je pense que les gens vont pouvoir en apprendre beaucoup. C'est un sujet qui me fascine énormément, moi, de pouvoir voir autant de gens investir dans une entreprise comme ça, puis de le faire aussi rapidement. Alors, en 60 jours, avoir été capable de faire ce que tu as fait, félicitations. Je trouve ça assez exceptionnel. Si, disons, maintenant, les gens veulent rentrer en contact avec toi, rentrer en contact avec Hard Bacon, où est-ce que tu leur dirais que c'est la manière la plus facile de pouvoir te contacter ou d'en apprendre plus sur l'entreprise?
Ah, c'est une bonne question. Ben, ça serait d'aller sur hardbacon.ca pour savoir c'est quoi Hard Bacon, s'ils veulent downloader notre application, voir les comparateurs de différents produits financiers. Sinon, ils peuvent me rejoindre sur mon LinkedIn.
T'es très actif, ouais.
Ben, c'est ça. Je pose beaucoup de choses, puis j'accepte la plupart des demandes qui viennent de gens qui sont pas juste pour me vendre quelque chose. Fait que si je vois que la personne semble être une vraie personne, une photo, et a pas quelque chose, genre je vais vous vendre des leads, quelque chose, puis qui est à Montréal ou au Québec ou au Canada, là, j'en accepte aussi aux États-Unis, mais faut que je sente que c'est pas juste comme un bot qui va essayer de me vendre quelque chose avec un message automatisé, mais je vais l'accepter.
Merveilleux. Ben, Julien, merci beaucoup d'avoir été sur le podcast Super Croissance aujourd'hui. Information fascinante. Je pense que les auditeurs vont être capables d'en apprendre beaucoup. Et sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hyper Croissance. J'espère que le 21e épisode ainsi que les 20 précédents auront pu vous aider à faire avancer votre entreprise. De mon côté, m'apercevoir qu'en 60 jours, seulement avec l'aide du public, on peut lever autant d'argent est pour moi ce que j'appelle un exploit. J'ai clairement l'impression que le sociofinancement ainsi que le financement participatif vont être des avenues de plus en plus empruntées par les entreprises dans les années à venir. Également, si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à nous laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ou encore un commentaire. On adorait savoir quel truc d'hypercroissance vous aimeriez entendre sur le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.